Alors nous allons passer une nouvelle semaine de découverte comme d'habitude dans les coulisses du Limousin et on va découvrir ensemble tout au long de la semaine un mouvement, c'est le mouvement Scout et Guide de France. On va commencer avec vous Richard Bonnet, vous êtes membre des réseaux de parents du groupe ici, alors c'est le groupe Saint-Éloi, on va le citer à Limoges. Un petit mot d'histoire peut-être pour commencer d'une manière générale, resituer un petit peu ce que c'est que ce mouvement Scout.
Ce mouvement Scout donc est né de l'intuition d'un général anglais il y a 100 ans. On a fêté le 100e anniversaire il y a 3-4 ans. C'était Lord Baden-Powell qui a imaginé un mouvement d'éducation pour les jeunes.
Alors c'est vrai que quand on parle scout, il y a beaucoup d'a priori, on va essayer de démystifier ça tout au long de la semaine. Par exemple, on relie souvent les scouts à un cadre religieux, ce qui à la base n'est pas forcément le cas.
Non, pas du tout. La proposition éducative de Baden-Powell intègre une dimension de recherche spirituelle, mais qui n'est pas étiquetée sur une religion en particulier. Par contre, après, des mouvements se sont formés dans différents pays et autour de différentes religions. Par exemple, les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique qui s'affiche comme tel, mais qui est ouvert à des enfants de toute religion.
La spécificité des Scouts et Guides de France aussi, c'est quoi ? C'est d'essayer de faire évoluer un petit peu aussi l'image du scoutisme aujourd'hui ?
C'est surtout de la vivre et de rejoindre les jeunes d'aujourd'hui. Donc, si on veut les rejoindre, il faut qu'on les rejoigne dans leur réalité du jour. Donc, aussi bien en milieu rural que en milieu urbain, et autour d'activités qui les passionnent aujourd'hui, tout en n'oubliant pas le cadre de la nature qui reste quand même le lieu privilégié du scoutisme.
En France, c'est vrai que certains peuvent penser que c'était très fort il y a quelques années. Aujourd'hui, on a un peu plus de mal. La réalité, c'est quoi aujourd'hui ?
Et après une période de forte baisse, les mouvements de scoutisme sont plutôt en train de se restructurer. Mais c'est sûr qu'on est loin des chiffres des années 50-60, ça c'est clair.
On est un petit peu au-dessus de la colonie de vacances. C'est un regroupement un petit peu sur le même mode de fonctionnement, mais avec la volonté peut-être que chacun se prenne un peu en main, se responsabilise.
Mais effectivement, on s'appuie, oui, sur l'organisation de nos groupes et la responsabilisation au travers des équipes. Ça, c'est vraiment un apprentissage social important. Puis je crois que c'est quelque chose qui touche vraiment une manière d'appréhender la société. Et tous ceux qui sont passés par le scoutisme, je crois, ont été marqués par cette expérience-là. Oui.
On sent les jeunes autour de nous plutôt épanouis, effectivement, d'être là, de se retrouver autour d'activités, notamment.
Voilà, tout à fait, oui. Mais le but n'est pas d'en faire des super scouts qui resteront scouts. Le but, c'est vraiment de leur donner tous les outils pour qu'ils s'épanouissent dans la vie d'aujourd'hui, ailleurs, dans d'autres associations, dans la vie courante, dans la vie professionnelle, dans leurs études, et apprendre à prendre des responsabilités, à vivre avec les autres, c'est tout ça.
Alors on va passer pour notre deuxième rendez-vous ici au sein des Scouts et Guides de France, le groupe Saint-Éloi pour être tout à fait précis, avec un autre invité, Mathieu Varnoux, vous êtes le responsable de ce groupe Saint-Éloi. Concrètement, il y a donc plusieurs groupes, par exemple ici à Limoges, comment on s'organise ? Il y a une vraie structure en tout cas dans ces groupes.
Oui, tout à fait, effectivement. Donc là, chaque groupe en Limousin est structuré de la même façon, c'est-à-dire que les jeunes sont regroupés en tranches d'âge par unité, en partant des plus jeunes qui ont 6 ans et qui jusqu'à 8 ans font partie de l'unité qu'on appelle les farfadets. Ensuite, on a l'unité qui s'appelle l'unité Louveteau-Jeannette, qui ont entre 9 et 12 ans. Ensuite viennent les scouts et guides, qui ont entre 12 et 15 ans. Puis l'unité pionnier-caravelle, avec des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans. Et ensuite, effectivement, on passe en compagnon avec des jeunes, donc la branche aînée, avec des jeunes qui sont majeurs et qui montent des projets vraiment très ambitieux. Dans chaque unité, les jeunes sont regroupés en équipe. Et au sein de cette équipe, il y a toute une vie qui se met en place et les jeunes sont responsabilisés par certains rôles. Il y en a qui sont plus chargés effectivement du matériel, d'autres qui sont plus chargés de l'animation, d'autres qui sont plus chargés du côté spirituel.
Voilà. Et ça veut dire aussi que il y a les jeunes qui sont là effectivement pour leur permettre un épanouissement, d'avoir des valeurs déjà dès le départ dans la vie. Et puis les pionniers, donc qui sont le groupe un peu plus âgé, eux c'est quoi ? C'est vraiment de continuer de fédérer ce mouvement. On change l'image du scoutisme mais qu'on insiste surtout sur ces valeurs et l'importance de ce mouvement dans la société d'aujourd'hui.
Oui, moi je pense que vous avez raison. Plus effectivement on arrive chez les branches aînées, pionniers, caravelles et ou compagnons ensuite, vers des projets effectivement qui tournent autour de la solidarité. Je sais que les compagnons chez nous ont beaucoup cette envie d'aller vers les autres, d'aller aider son prochain sur des projets assez intéressants à l'étranger. Voilà, il y a du bruit un petit peu.
Il y a de la vie en tout cas.
Il y a de la vie à l'étranger sur des associations caritatives ou d'aide humanitaire. Et je trouve que ça c'est important effectivement. Moi ce que je remarque en tout cas c'est que c'est vrai que nos jeunes les plus âgés effectivement gardent vraiment ces convictions là en eux. Et je pense que en dehors du mouvement scout ils doivent être dans cette dynamique là dans leur vie de tous les jours quoi.
Et ça veut dire aussi que pour fédérer ce mouvement, continuer de faire vivre ces valeurs, il y a quoi ? Il y a des réunions au plan national, au plan international également, entre les pionniers et les compagnons ?
Alors voilà, nous on fonctionne effectivement tous les 15 jours sur des réunions qui durent 3 heures le samedi. On peut imaginer que certaines unités et leurs responsables organisent des week-ends, puis des camps bien sûr d'été. Mais il y a effectivement aussi, au-delà de notre fonctionnement de groupe, il y a effectivement des réunions nationales, voire internationales, des grands rassemblement Scout de France qui est généralement vraiment un grand grand moment et plein de souvenirs surtout quoi.
Ça reste aussi un grand moment de fête, de partage avant tout.
Voilà, là on est effectivement sur les valeurs Scout complètement.
Notre troisième rendez-vous ici au sein des Scouts et Guides de France pour continuer de découvrir un petit peu cet univers, de faire tomber quelques préjugés peut-être. On va s'intéresser au poste de chef d'unité. On les a évoqués, ces unités, en fonction des catégories d'âge. Deux nouveaux invités, Pierre qui s'occupe des Scouts et des Guides et Perrine qui s'occupe de son côté des pionniers, donc catégorie un petit peu au-dessus. Un mot d'abord sur votre propre expérience. On va commencer avec les femmes, Perrine. Votre expérience 10 ans au sein des Scouts.
Mais moi, je suis arrivé là un peu par hasard en seconde. Mes parents m'ont dit tu vas aller à Lourdes avec les scouts, donc pleine de préjugés, j'ai bien évidemment refusé. Ils ont insisté et maintenant c'est eux qui me disent bon Perrine, les scouts ça suffit. Donc voilà, j'ai commencé, j'avais 15-16 ans et puis après mon parcours en tant que jeune, j'ai voulu continuer et puis rendre un petit peu ce qu'on m'avait permis de faire en tant que jeune.
Pierre, vous avez commencé à l'âge de 6 ans, donc parcours différent, ou là aussi un petit peu la même chose, des a priori au départ, et puis finalement, il tombe 1-1.
Ouais, je peux pas vraiment dire que j'avais d'a priori. Mes parents étaient un peu, connaissaient le mouvement. Ils m'ont mis dedans jeune et j'en suis jamais sorti, voilà.
Alors aujourd'hui, vous avez des responsabilités d'encadrant, vous transmettez un petit peu votre savoir, ce que vous avez appris durant toutes ces années. Concrètement, le rôle de responsable d'unité, ça consiste en quoi ?
Alors pour les 14-17, c'est vrai que c'est un rôle, c'est accompagné. On utilise justement dans la pédagogie l'image de l'auto-école, du moniteur d'auto-école qui est là à côté du conducteur. Il conduit pas la voiture, il accompagne vraiment. Donc je pense que c'est vraiment ce rôle-là que nous avons en tant que chef et cheftaine, les accompagner. C'est vrai que c'est eux qui décident de leur projet de camp. C'est eux qui se débrouillent pour trouver des financements, ils se mobilisent pour des extra jobs et les activités sont décidées vraiment. C'est leur initiative.
C'est très différent d'âge en âge, c'est pas les mêmes activités évidemment. Quand on passe aux catégories un petit peu en dessous, Pierre, c'est une autre forme d'enseignement ?
Oui, c'est plus basé sur l'éducation par le jeu. Toutes sortes d'activités. L'été, beaucoup d'activités en extérieur, activités manuelles.
Là, on parle de ce qui se passe par exemple ici, tous les 15 jours, mais ça veut dire qu'il y a aussi des sorties, il y a des camps qui sont organisés. Là aussi, c'est une autre responsabilité, mais c'est aussi peut-être les moments les plus attendus.
Oui, c'est les moments les plus attendus, c'est sûr, sans négliger des moments forts quand même pendant l'année. Mais au niveau de la maîtrise, ça se passe de la même manière, ça se fait très naturellement. Après, voilà, il faut être organisé. C'est vrai que des fois, on manque un petit peu de rigueur sur certains points. Mais ça s'est toujours bien passé. Et puis, je suis assez confiante pour l'avenir. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Ça veut dire aussi que c'est beaucoup de dons de soi au quotidien ?
Oui, pas mal, ouais. C'est pas mal de temps. Chacun a sa vie à côté. Moi, je suis étudiant. Donc, ouais, des fois, c'est pas forcément facile. Mais c'est important. Enfin, pour moi, c'est important. Et je sais que j'aurais peut-être du mal à garder le sourire dans ma vie sans les scouts.
C'est notre quatrième rendez-vous ici au sein des Scouts et Guides de France, groupe Saint-Éloi qui nous accueille. Je suis en compagnie de deux membres, deux scouts donc qui vont pouvoir nous parler concrètement de ce qu'est être scout aujourd'hui, Claire et Andrea. Des parcours très différents d'ailleurs, hein, 17 ans de scoutisme pour Claire, 2 ans pour Andrea. Un mot d'abord sur votre volonté de rejoindre un petit peu ce groupe, faire partie des scouts de France par exemple, Claire, 17 ans de parcours, c'était une vraie envie, c'était presque une évidence.
En fait, moi, c'est un peu mes parents qui m'ont poussé puisqu'ils étaient animateurs, mais c'est vrai qu'ils m'ont toujours laissé le choix et j'ai toujours voulu être scout.
Pas de regret, visiblement, 17 ans plus tard. Andrea, 2 ans, donc là, c'est plus frais. Pourquoi avoir intégré ces scouts de France?
Moi, c'est grâce à Claire, parce que donc je l'ai rencontrée au collège et elle m'a parlé des scouts, ça m'a donné envie et donc j'ai fait un camp et je suis restée.
Qu'est-ce qui vous attire dans cet univers-là? Il y a des regroupements, évidemment, vous êtes entre vous, sur des activités, du partage. Le point essentiel, ce serait quoi?
Oui, le partage et puis aussi la confiance qu'on nous donne. On nous laisse créer nos projets, on nous apprend beaucoup de choses et c'est vraiment très très intéressant.
Il y a des codes chez les scouts. Par exemple, vous êtes habillé en rouge, ça a une signification particulière?
Oui, donc rouge, c'est parce qu'on est dans la tranche d'âge des pionniers. Après, donc pour les petits, c'est jaune, les louveteaux. Après, il y a les scouts, c'est bleu. Et au-dessus de nous, les compagnons sont en vert. C'est pour nous différencier, mais ça n'a pas une signification particulière.
Alors en revanche, vous avez des écussons un petit peu partout, et là c'est différent d'un groupe, d'une unité à une autre.
En fait, il y a des écussons qui sont communs à tous les scouts de France, et ensuite il y en a aussi qui varient selon notre groupe, et enfin selon notre unité.
Il y en a partout, hein, donc je ne sais pas lequel choisir. La signification de certains d'entre eux.
Il y en a un donc, qui indique le groupe dont on fait partie. Un, la tranche d'âge. Il y en a aussi qui est pour la promesse, pour aussi notre rôle dans notre unité. Moi, par exemple, je suis responsable documentation. Donc, en fait, je m'informe sur les activités qu'on peut faire. Je cherche des renseignements. Voilà.
Alors, il y a la petite veste, mais il y a aussi le foulard. Donc, il y a beaucoup de codes couleurs. Là, le foulard aussi, c'est une couleur particulière en fonction des unités.
Mais le foulard, c'est pour dire qu'on fait partie du groupe Saint-Éloi, donc, parce qu'il y a plein de groupes différents. Et donc, nous, c'est orange et vert.
Il y a aussi donc des symboles. On a tous dans la tête le signe de la main, par exemple, des scouts toujours. Ça aussi, c'est des choses qui existent toujours encore?
Oui, en fait, c'est quand on a fait notre promesse, on fait notre signe pour se reconnaître. C'est vrai que c'est un signe d'appartenance, mais qui se fait un peu moins aujourd'hui. En fait, on a le majeur, l'index et l'annuaire qui sont relevés et le pouce est sur l'auriculaire.
C'est le signe traditionnel. Et puis, il y a des symboles également qui est différent d'unité en unité.
Au niveau des scouts de France, déjà, notre symbole, c'est la fleur de lys et la croix scout. Mais la croix scout, après, elle est pour tous les scouts du monde.
Et c'est notre dernière escale au sein des scouts et guides de France que nous avons mieux découvert depuis le début de la semaine. On va terminer avec un dernier invité, le père Charles-Antoine Dufort. Vous êtes ici, vous, père à la paroisse Saint-Éloi, du nom donc effectivement de ce groupe scout que l'on a découvert. Un côté très spirituel et très important. Vous le ressentez, vous, au contact de ces jeunes au quotidien?
Le mouvement scout de France est un mouvement d'inspiration chrétienne. Il a été fondé en France par prêtre, un père jésuite qui s'appelait Jacques Sevin, entre les deux guerres, qui avait été absolument séduit par la profonde humanité des intuitions de Baden-Powell. Ce qu'a voulu le père Sevin, et puis ensuite ça s'est monnayé de façon extrêmement différente suivant les générations et suivant les années, c'est qu'il y ait au fondement même de l'aventure scout les intuitions profondes de l'évangile. Un peu comme une sorte d'école de la fraternité, à travers le soin qu'ils prennent les uns des autres, à travers les aventures qu'ils montent ensemble, à travers aussi la confiance que tous les adultes qui les encadrent font à ces jeunes proportionnellement à leurs âges, pour qu'ils réalisent des projets et qu'ils se mettent aussi à leur service, non pas pour leur dire tu vas faire ceci, tu vas faire cela, mais pour les aider à construire les projets qu'ils ont eux-mêmes, les jeunes, élaborés.
Ça veut dire qu'il y a quelques années aussi, nombreuses paroisses accueillaient ces jeunes scouts. Aujourd'hui, c'est moins le cas, par exemple, sur Limoges.
Il y a deux groupes scouts. Alors bon, vous savez, moi, je suis curé d'une paroisse qui est une grosse paroisse, qui comporte 4 églises, donc je fais ce que je peux en termes de temps. Et je trouve que c'est important de le faire, au moins de façon... minimal. Moi, je regrette beaucoup que le mouvement scout ait en proportion diminué par rapport à ce qu'il était il y a 35 ans ou 40 ans. C'est pour ça que je suis content que ce groupe scout existe, parce que c'est un témoignage de l'importance de... Il ne s'agit pas simplement d'établir des rapports individuels sympas, il s'agit aussi d'organiser la vie sociale pour qu'elle porte ces valeurs-là et qu'elle puisse les transmettre.
Quand vous voyez ces jeunes ici réunis, qui sont nombreux, on l'a dit, 80 membres dans ce mouvement scout-là, vous êtes optimiste sur toujours ces notions, parler de fraternité pour l'avenir?
Il ne va pas vous échapper totalement que je suis croyant. Voilà, non, je crois en Dieu. Et c'est parce que je crois en Dieu que même si on est parfois amené à traverser des situations pas très faciles, j'ai beaucoup d'espérance. Et je pense que mon espérance est réaliste. Parce que je crois aussi que profondément dans le cœur de l'homme, même s'il est capable de beaucoup de choses contraires, il y a quand même ce désir un peu d'amour des autres, de volonté de construire cette fraternité, etc. Alors ça se bataille avec d'autres choses à l'intérieur, hein, c'est sûr, avec de l'égoïsme, avec de l'ambition, avec de l'orgueil. Le cœur de l'homme est un champ clos de bataille de forces contraires. Et puis il n'y a qu'à regarder l'humanité telle qu'elle est en appuyant sur le bouton de la radio le soir pour se rendre compte que c'est vrai aussi. Je crois à un bel avenir pour l'humanité, même si on a envie de penser le contraire parfois, parce que je pense que c'est ça que Dieu veut pour elle et que c'est ça qu'il prépare pour elle, mais pas sans elle. C'est ce qui fait que parfois on a du retard.